Alien et les garçons, épisode 13. Bienvenue dans Toi, mon meilleur.
Bienvenue à bord d'Alien et les garçons. Bonjour tout le monde.
Hello.
Bonjour. Ça va bien?
Ça va.
Quel plaisir de se retrouver. Ça fait combien de temps?
Ça fait quasiment un mois en vrai.
Ouais, peut-être presque plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, je ne dirai rien.
Vic, j'étais en PLS pendant un mois.
J'étais malade.
Ouais, j'étais malade.
Il avait la grippe.
C'était terrible.
En tout cas, c'est ce qu'on a dit à la presse, la grippe.
Oui. Non, j'ai vu ma dernière heure arriver et finalement, je suis ici et je suis
finalement,
content.
J'ai dit non. J'ai dit non à la grande faucheuse qui s'approchait de moi avec sa grande carpe.
Ouais, je lui ai dit non. Il reste l'épisode 13 que j'ai écrit en plus déjà. J'avais déjà écrit pour une fois.
Oui, c'est vrai.
Ouais, donc non.
Tout était prêt et au dernier moment, t'as explosé en plein vol et on n'a pas pu enregistrer. Et du coup, on a pris 2 semaines de retard. Et du coup, nous revoilà avec donc 2 semaines de retard. Tout est cohérent.
Tu sais que dans le précédent épisode, on disait « Ah, on est content, on a pris un bon rythme.
Ouais, » on était bien, ça fait 6 mois qu'on tient le rythme et tout. Rien du tout.
Après,
la maladie, c'est quelque chose de dangereux et de grave. On peut se dire qu'on avait une bonne excuse, je pense. On n'avait pas enregistré à deux non plus, on est trois, c'est comme ça. Et voilà. Et du coup, Vic, tu vas mieux ?
Eh bien, écoute, ça va beaucoup mieux.
T'as l'air en grande forme.
Eh bien, oui.
Totalement. Ça s'entend dans ta voix, à moins que ce soit notre nouveau matériel.
Ah, oh, bonne transition. Bravo, merci. On sent que t'as pas perdu ton art du hosting.
N'est-ce pas?
Ouais, donc nouveau matériel, c'est vrai.
Merci à tous les auditeurs qui nous ont offert de l'argent pour qu'on puisse acheter du nouveau matériel.
C'est faux. Pour ceux qui se posent la question, c'est faux. Mais on a vraiment acheté du nouveau matériel. Donc si le son est moins bon, en fait, c'est parce qu'on sait pas encore bien s'en servir.
Ou s'il est meilleur, c'est normal aussi, mais ouais, ça, coup, on sait pas vraiment.
Ça devrait être meilleur, normalement. Et s'il est moins bon, c'est peut-être qu'on a renversé du Romanetti dessus aussi. Pourquoi? Parce qu'on a du Romanetti avec nous.
T'as le temps de transition en transition, quoi. Le mec est un magnifique host.
Est-ce que vous allez me féliciter pendant une heure?
C'est le grand retour du Romanetti.
Le grand retour du Romanetti, c'est un sujet.
Ouais. C'est un sujet.
Parce que le Romanetti, pour ceux qui connaissent bien Alien et les garçons, c'est le premier alcool qu'on a bu ensemble dans l'épisode 1, le tout premier épisode. Donc c'était en octobre, je ne sais plus quand, c'était septembre 2018.
Ça a participé un peu aux fondations d'Alien et les garçons.
Exactement. Alien et les garçons, c'est des protéines, de l'azote et du Romanetti.
Ouais,
c'est non, ça, à peu
près. Vrai.
Et donc voilà, donc back to basic pour l'épisode 13, parce qu'on avait besoin de ça un peu pour se sentir un petit peu mieux.
Oui, puis on avait besoin de revenir un petit peu à nos fondamentaux, à ce qui a créé vraiment Alien et les garçons, quoi, parce qu'on avait à peu près la grosse tête,
notre identité nationale à nous.
Exactement.
Et qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois? On se parle un peu de ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous?
C'est plein de choses.
Il y a beaucoup de choses. Hein.
Pour Alien et les garçons, en tout cas.
Bah, pour Alien et les garçons. Moi, j'aimerais dire un truc.
Oui.
J'ai été une semaine avant que je sois malade, donc une semaine avant qu'on y ait, donc il y a 3 semaines, quelque chose comme ça.
Ouais.
J'étais en Belgique avec un ami et on s'est fait braquer la voiture.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, aïe, 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 aïe. Oui, ça, je vous avais prévenu.
Tu veux passer un appel à témoin?
Bah, si je le dis ici, en fait, c'est en gros, on s'est fait braquer. Donc, ils nous ont pris, ils ont pris nos valises. Et dans ma valise, j'avais des petits carnets.
Ah oui, ça, c'est dur.
Des petits carnets où j'écrivais des choses dedans, des choses pour aliéner les garçons, pour d'autres trucs, enfin, des textes, comme on écrit tous des petits carnets. Et si j'en parle là, c'est parce qu'il y avait aussi dans la valise des stickers d'Alien et les garçons. Donc, ce que je me suis dit, c'est que peut-être que les voleurs, en voyant ces stickers, s'étaient mis à écouter Alien et les garçons.
Peut-être qu'ils adorent.
Peut-être que maintenant, ils sont devenus fans d'Alien et les garçons, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'ils l'écoutent, et s'ils écoutent cet épisode-là, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous pouvez garder l'enceinte portable.
Tout ce qui est précieux, gardez-le.
Vous pouvez garder mes caleçons sales, pas de problème. Mais je veux bien que vous me renvoyiez les petits carnets qui étaient avec, s'il vous plaît.
Il y a 0,01% de chance, mais
et si jamais et ça,
si
marche,
ça marche, ouais. Ça serait ouf. Donc, s'il vous plaît, les voleurs belges,
ramenez les carnets.
Envoyez-nous un mail sur Facebook, Alien et les garçons, tout ça, ou Twitter, ou ce que vous voulez. Et s'il vous plaît.
Voilà, ça serait très gentil. Et on vous invite au pire à faire une chronique. Avec
et si vous pouviez aussi coller des stickers des garçons dans tous les bars belges, si possible.
Ouais, ce serait pas mal.
Ce serait super sympa.
En parlant de stickers, d'ailleurs, si un auditeur veut un sticker, des stickers, quelques stickers, on peut en envoyer.
C'est vrai,
il suffit de nous envoyer votre adresse sur quelque part, Facebook
ou Twitter. Et justement, je vais faire une autre transition parce qu'entre temps, depuis un mois, on a lancé un Twitter.
Exactement.
Parce qu'on est des gens à la mode.
Parce qu'on est grands.
Et voilà, et donc du coup, on a 29 abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous. S'il vous plaît.
Mais sur Twitter, contrairement à Facebook, on met des photos parce qu'on n'osait pas trop mettre des photos sur Facebook parce qu'il y a quand même nos mamans qui nous suivent sur Twitter, elles ne connaissent pas. Mais on y va fort en photo sur,
et d'ailleurs,
sur Twitter. Et d'ailleurs, Nude de Florian.
Dick pic de Florian.
C'est.
Ouais, non, en effet, on a un Twitter. Donc allez-y, c'est quoi notre hâte?
C'est @ALG podcast.
ALG tiré du bas podcast.
Ouais.
Allez-y, venez nous follower, on poste plein de trucs. Pour une fois, on se bouge un peu plus le cul sur Facebook parce que c'est plus facile. Et pour l'instant, on est un peu seul, on n'a que 30 abonnés, c'est pas beaucoup. Voilà, on va peut-être lancer une sorte de téléthon du follower, un truc comme ça. Chaque épisode, on va vous en parler, etc. Et puis c'est bien pour une fois de parler des réseaux sociaux au début, on en parle à la fin. Et
c'est
vrai. Les gens n'écoutent pas jusqu'au bout parce que on est chiant.
C'est normal, c'est logique.
Et ben, ça fait du bien d'en parler. On a des Facebook, on a des choses comme ça, il faut venir. Ok.
Oui. Et merci pour les messages de soutien.
Oui, on en reçoit de plus en plus. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux aussi.
Parce que ça fait vraiment plaisir.
C'est ouf. Non, blague à part, là, ça fait du bien de recevoir des messages. Si vous hésitez à nous en envoyer, envoyez-en.
Oui.
Envoyez-nous des thèmes aussi. Et vraiment, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. On ne pensait jamais avoir autant de succès, même si on reste un petit podcast. C'est vraiment cool. Merci tout le monde.
Ça aide à écrire les chroniques le soir en rentrant du travail seul chez soi.
On relit les commentaires comme ça et les messages des fans et on se dit oh, c'est pour toi que je le fais. C'est pour toi.
Et du coup, justement, donc plein de nouveaux auditeurs. Est-ce que pour l'occasion, on ne demanderait pas à l'explicateur Florian quel est le concept d'Aline et les garçons? Ça fait longtemps que tu l'as pas fait, donc
ça
fait
longtemps. Tu es capable de le faire. Mais je m'étais habitué à ne plus le faire en vrai.
Est-ce que tu peux le faire en 10 secondes?
Je peux le faire en 10 secondes?
Ouais.
Ouais, je peux essayer. Ouais.
Vas-y, on
3,
t'écoute, Florian.
2, 1. Aline et les garçons, c'est un podcast où on est 3 chroniqueurs qui inventons des mondes fictifs de science-fiction.
Ouais.
Et on en discute autour d'un verre pour en débattre, pour découvrir de nouvelles choses.
C'est exactement ça.
Ouais, ouais. J'ai un peu brodé sur la fin.
Ouais, mais c'était bien. T'as bien improvisé, on sent que t'es
c'est
bon
vrai,
quand même. Ouais, c'est bien, j'ai bien aimé.
Ouais,
et du coup, on est tous les 3, Vic, Florian et moi, Thomas, et on va se parler de différents mondes. Et d'ailleurs, le thème du jour, c'est quoi?
Marionnette.
C'est Marionnette qui a été donné par Manon. Une auditrice. Merci Manon.
Merci Manon. Big si up. Tu nous entends, big up.
Si tu ne nous entends pas, tant pis. T'écouteras le prochain épisode, désolé. Alors traditionnellement, je te demande dans tout bon épisode d'Aline et les garçons, on se fait un petit portrait chinois des glingos.
C'est exact.
Et ça fait 2-3 fois qu'on ne l'a pas fait.
C'est exact. On va déjà toujours pas 2-3 fois qu'on ne l'a pas fait.
Je crois, entre les épisodes spéciaux, les hors-série, les machins.
Attends, ouais, ça se perd. Hein.
Et ben, ça se perd d'autant plus qu'on ne va toujours pas le faire.
Oh, putain.
Par contre, c'est le premier épisode qu'on enregistre en 2019.
C'est vrai.
Et pour nous, non, on en a diffusé en début 2019.
Ah oui, c'est vrai.
Mais on l'a joué carte sur table, on a dit nous, on l'enregistre en 2018.
Mmh, c'est vrai.
Et c'est le premier qu'on enregistre en 2019. Et le dernier épisode, on s'était donné des petites nos bonnes résolutions. Vous vous souvenez? Et je voudrais prendre des nouvelles de vos bonnes résolutions.
Bah, c'est pas bon signe pour moi.
Ah ouais? Alors, Florian, quelle était ta bonne résolution?
Je n'ai toujours pas arrêté de fumer, je n'ai toujours pas vu d'hypnotiseur.
Ouais.
Mais ça vient petit à petit, je me fais à l'idée et j'essaye de me préparer psychologiquement à voir ce monsieur qui m'impressionne beaucoup.
Est-ce qu'on peut dire qu'on est sur un échec?
Non, on est sur une demi-réussite.
On est sur une demi-réussite.
On est sur une préparation de réussite, quoi.
Putain, mec, tu devrais faire de la politique.
On n'est pas du tout sur un échec.
Ok, donc on est sur une...
On est sur la bonne pente.
On est sur la bonne voie.
Exactement. On est que fin janvier, on est que même début février, ça va aller, quoi.
Oui, c'est vrai, bravo Florian.
Il reste encore 11 mois.
11 mois pour réussir à tenir ta promesse. Ouais. Bravo. Vic?
Toi d'abord.
Moi d'abord. Alors moi j'avais dit que j'allais devenir un adulte.
Ouais.
Et t'as grave réussi, je crois.
Ah, merci Florian.
Ouais, franchement pas mal.
Vous savez en quoi j'ai le plus réussi?
T'as une petite chemise.
J'ai une chemise d'adulte alors qu'avant j'étais torse nu.
Et ton nouveau bébé aussi, bravo.
Oui.
Franchement, c'est félicitations.
J'ai volé un enfant d'une maternité pour aller plus vite.
Exactement.
Et non mais surtout le point important de mon adulting, c'est que j'ai acheté des pantoufles.
T'as acheté des pantoufles?
Ouais, et attendez.
Tu sais que même moi, je n'en ai pas.
Alors, des charentaises?
Non, je vais vous expliquer. Et en fait, je vais faire un point pantoufle pour vous.
Point pantoufle.
J'ai acheté des pantoufles parce que c'est un truc d'adulte d'avoir des pantoufles.
Pour le monteur, jingle pantoufle.
Je ne sais pas s'il le fera.
On verra.
Rodrigo. Et du coup, point pantoufle, je vais vous parler de ça parce que ça a un petit peu changé ma vie. Parce que, en effet, c'est hyper agréable de rentrer chez soi en pantoufles.
C'est bien sûr.
Franchement, je
savais
pas.
Surtout avec le froid en ce moment.
Exactement. Et je vais vous parler de pour tous ceux qui n'ont pas de pantoufles, je vais vous faire une reco pantoufle. Et je vous le dis pour vous aussi, je voulais vous en acheter. Je voulais vous acheter les mêmes que moi, mais en fait, j'ai pas de thunes, donc je l'ai pas fait parce que je reste avec un compte en banque d'enfants, malgré tout.
On le fera avec le Patreon des éditeurs.
Ouais, quand on ouvrira un Patreon. Et du coup, j'ai acheté des pantoufles Uniqlo.
Elles,
14 euros et 15 euros, elles sont incroyables.
Donc pantoufles japonaises.
En fait, elles ressemblent un peu à des crocs, soit, mais elles sont matelassées de l'intérieur, ce qui fait que tu t'enfonces dedans à chaque pas. C'est comme
mal,
si tu marchais
mal.
Dans des sables mouvants. C'est magnifique.
Alors, faut faire attention c'est parce magnifique. Que moi, je trouve qu'avec les pantoufles, notamment avec les charentaises, quand c'est molletonné à l'intérieur ou tu sais, un petit peu.
Tu t'endors. Trois pas et tu t'endors.
Non, mais du coup, c'est un peu trop chaud pour les pieds.
Trop chaud. Ah non,
ouais,
c'est pas trop chaud.
Trop chaud pour les
parce qu'en
pieds.
Fait, c'est ouvert à l'arrière. C'est ouvert à l'arrière.
Ah, très bien.
Comme des crocs.
Pas mal,
c'est ouvert
pas
à l'arrière. C'est pas mal.
Pas mal.
Pour tous ceux qui écoutent le podcast pour la première fois, vous devez vous demander où vous êtes. Patientez. Bientôt, on va parler de SF, tout ça. Vous inquiétez pas. Donc voilà, je voulais vous conseiller ces chaussures-là. Vic, c'est. Et chaussons, pardon. Vic.
Moi, j'avais dit qu'il fallait que je finisse plus de projets, que je termine plus de projets. J'en ai terminé un projet très rapide. Mais c'est
qui était de me faire cambrioler.
Qui était de me faire cambrioler en Belgique. Non, c'était pas ça mon projet, même si ça c'était intéressant aussi. Non, c'était de. Je ne suis pas allé qu'en Belgique. Dernièrement, je suis également allé en Afrique du Sud.
Waouh!
Ça, c'était très sympa.
T'es allé faire des courses d'autruche?
Je suis allé faire des courses d'autruche et c'est marrant parce que tu as ramené un autre truc. Tu fais de la transition parfaite, vous faites la transition parfaite parce que je vous ai ramené un petit cadeau.
Wow.
C'est
vrai.
Wow.
Deux petits cadeaux, un petit cadeau chacun.
Est-ce que c'est des œufs d'autruche?
C'est pas vraiment
c'est des œufs d'autruche.
Alors,
il y a Vic qui sort de sa besace des œufs, quelque chose de rond emballé.
Ah bah, alors peut-être que vous allez avoir besoin des ciseaux. Je sais pas si. Voilà, je vous donne des ciseaux.
J'ai peur, du coup, si c'est des vrais œufs, j'ai peur de les éclater, que ça en foutre partout sur le nouveau matériel.
C'est pour ça que je le fais en dessous de la table.
Alors, c'est. Voilà, donc tu vois, c'est un projet que j'ai terminé.
Ah, c'est vraiment un œuf d'autruche.
Mais c'est. Alors là-bas, ils les peignent.
Ils les peignent.
Ouais.
C'est genre pack toute l'année, quoi.
Vous allez voir, c'est.
J'arrive pas à l'ouvrir, je suis pas bon. Est-ce que c'est fragile ou pas?
Non.
Ah, okay. C'est un style, je te confirme.
Alors vous allez être contents chez vous. Alors, c'est vos copines qui vont être heureuses.
Bon, tu sais, on a bien pire en déco chez nous.
Attends de l'ouvrir.
Je suis en galère de ouf.
Je crois que c'est toi qui as eu le pire.
C'est moi qui ai eu le pire.
C'est pas très radiophonique.
C'est pas très radiophonique, mais on postera des photos des.
Sur le Twitter, justement, c'est la première. Pardon, je vais parler dans le micro, tant qu'à faire. Sur le Twitter, on va vous poster des photos de son
étoile.
Si seulement j'arrive à l'ouvrir.
Regarde-moi ça.
Alors décris-le aux auditeurs, Florian. Il est beau, le tien.
Franchement, il est assez beau.
Alors que le tien.
Il est dégueu.
Alors, le mien, c'est une fidèle reproduction d'une scène du Roi Lion, quasiment. Avec une carte de l'Afrique façon vintage, peinte dessus.
Ouais.
Avec marqué dessus Africa. Nova Tabula.
Nova Tabula.
Et après, j'arrive pas à lire.
Quelqu'un a fait du latin ?
Et il y a un trou en dessous de l'œuf. Je pense que c'est pour le remplir avec de la drogue.
C'est pour le vider, surtout. Ils ont dû le vider.
Ah, il y a moyen.
C'est un vrai œuf ?
C'est un vrai œuf.
Je le connais contre ma joue pour voir si c'est dur, mais en fait,
oui, mais
c'est ma joue qui est molle.
C'est acheté donc sur les opus de Cape Town.
Wow. C'est du vintage.
C'est fabuleux. Hein.
C'est. Voilà. C'est. Il y en a.
Le mien, il est dur.
On l'a choisi avec un collègue.
Alors moi j'ai de côté j'ai la même chose. J'ai une horde d'animaux sauvages qui foncent dans ma direction
sur un petit fond de ciel dégradé
rose,
étonnant
rose bleu vert violet.
Ah, je préfère le mien.
En termes d'animaux, on est sur quoi? On est sur du guépard, on est sur du lion, sur du buffle, on est sur du rhinocéros et de l'éléphant, je crois. Voilà. Et ils me font face et autant vous dire qu'ils sont assez réalistes et ça me fait un petit peu peur.
Et voilà.
En plus, il me pointe de la trompe, l'éléphant. Et c'est magnifique. Merci beaucoup, Vic. Il nous a vraiment ramené.
Et j'ai des petits supports aussi pour pouvoir les poser que je vous donnerai plus tard.
On va vous prendre ça en photo. On le poste sur Twitter à la sortie de l'épisode. Enfin, quelques jours après, je pense. Vas-y, Florian, tiens, on échange.
Je les mets dans une boîte pour pas qu'ils tombent et qu'ils se cassent.
C'est magnifique. Merci beaucoup. Et
quel
début d'épisode t'as réussi un projet, c'est vrai.
C'était une fois que c'est vrai que j'ai fait chier tous ceux avec qui j'étais en Afrique du Sud pour dire il faut que je trouve des œufs d'autruche. Et alors, c'est quelqu'un qui m'a amené sur un marché aux puces où ils avaient des œufs d'autruche tout peints.
Il devait avoir ras le cul. Genre, tiens, lève là tes œufs.
C'est trop bien. C'était un peu l'idée.
C'est pour ça que du coup, il t'a amené sur le stand avec qui peignait des œufs les plus moches. C'est notamment
ça.
Oui,
effectivement, le tien, Thomas, on l'a choisi avec une personne en se disant celui-là, il est quand même bien, bien kitsch.
Mais c'est parce qu'il est kitsch qu'il est beau.
Ben, c'est ça.
J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense que c'est un des débuts d'épisodes les plus improbables qu'on ait jamais fait. C'est formidable.
C'est vrai. Mais du coup, ça nous fout la pression. Je pense qu'il va falloir qu'on offre des cadeaux désormais.
Question rapido. Donc, thématique marionnette. De quoi on va se parler, les trois mondes dont on va se parler? Vous avez une petite idée? Qui commence? C'est toi, Vic? Tu sais de quoi tu parles, toi?
Oui, moi, c'est un monde qui parle de la découverte d'une âme sœur.
Wow. Cool.
Moi, c'est un monde Florian. Où on peut rembobiner sa vie.
Ça, c'est cool.
Ouais.
Et moi, je vais vous parler d'un monde un peu existentiel avec quelque chose d'un petit peu deep et de mystique, vous allez voir.
D'accord.
Quelque chose de différent.
Qui commence ?
Je vous propose de nous resservir un petit peu de Romanetti et d'attaquer directement avec Vic.
Exactement.
Allez, à tout de suite.
Pour le meilleur et surtout pour le pire.
Bon, avant de commencer, vous allez jouer des personnages dans ma chronique.
Ok.
Okay.
Du coup, quand je vous fais ça, c'est que c'est vous qui parlez. En fait, vous répétez juste ce que je dis.
Okay. D'accord.
Voilà. Mais c'est vous qui le dites, mais je vous le dis avant. C'est parti.
Chapitre premier, le cosmos de l'enfer.
Thomas, dans la chronique d'aujourd'hui, tu t'appelles Tam.
Tam.
Tu es une magnifique créature de sexe 1, disons l'équivalent du sexe féminin. Tu vis sur Talaïn, une petite planète à cœur chaud, à peu près similaire à la Terre. Ce soir, tu rentres de ton travail. Et pour fêter le passage au jour suivant, tu entres dans ton bar fétiche, le Cosmonose. Comme chaque soir, l'ambiance y est plutôt chaleureuse. Ce soir, sur la scène du Cosmonose, il y a même un petit groupe qui joue. Tu te frayes un chemin dans la cohue grandissante. Pardon ?
Je me fraye un chemin dans la cohue grandissante.
Pardon.
Pardon.
Excusez-moi.
Excusez-moi.
Merci.
Merci.
Oh, salut, ça va ?
Salut, ça va ?
On se retrouve plus tard, je vais chercher un verre.
On se retrouve plus tard, je vais chercher un verre.
Pardon.
Pardon.
Tu arrives au niveau du bar, mais la foule t'empêche d'atteindre le comptoir. Prenant ton mal en patience, tu sors ton pod d'assistance pour passer le temps en vérifiant les nouveautés dans ta vie. Tu fais défiler les différentes informations. Ta température corporelle est bonne. Aucun signe de maladie naissante. Ton cerveau est à 91% d'efficacité, ce qui est plutôt correct pour un jour finissant. Tes cellules mortes sont en train d'être évacuées et remplacées par des nouvelles. Ton travail du lendemain a été programmé. Tes amis sont tous en bonne santé aux quatre coins de Talaïn. Tout va pour le mieux.
Bonne ambiance.
Tiens, une nouvelle notification.
Tiens, une nouvelle notification.
Remarques-tu à voix haute. C'est le système de rencontre de ton pote d'assistance qui vient de s'éclairer. Il t'annonce qu'un individu de sexe 2 se trouve lui aussi dans le Cosmonose. Et pas n'importe quel individu. Non, c'est écrit noir sur blanc sur ton pod, c'est ton Duumvir. Autrement dit, ton âme sœur.
Ah.
L'individu avec lequel tu dois partager ta vie. On ne peut avoir qu'un seul Duumvir sur Talaïn. Et le tien est là, ce soir, au Cosmonose, tout près de toi. Ton rythme cardiaque s'accélère alors que tu relèves les yeux. Devant toi, la foule s'est écartée en deux blocs, au milieu desquels un passage vers le comptoir semble t'être destiné. Les gens sont comme figés. Ils te regardent tous de manière bienveillante. Ils semblent attendre ton premier mouvement. Au bout du passage, près du comptoir, ton Duumvir est assis et te regarde. Tu le rejoins d'un pas lent, comme sacralisé par l'instant. Puis tu t'installes à ses côtés. Il te regarde, te sourit, te tend un verre et prend la parole. Je m'appelle Ophoz.
Je m'appelle Ophoz.
Tu attrapes le verre sans quitter Ophoz des yeux. Il reprend. C'est un jablon.
C'est un jablon.
C'est la boisson des Duumvir.
C'est la boisson des Duumvir.
Celle qui nous unira pour le restant de chaque nouveau jour.
Celle qui nous unira pour le restant de chaque jour. J'ai pas vraiment suivi la phrase qu'il a dit juste avant.
C'est pas grave. Tu bois le jablon, vous vous embrassez. Cette scène se déroule environ 4400 jours après celle du Cosmonose. Taham, tu es bien sûr toujours avec ton Duumvir. Depuis votre rencontre, vous vivez une idylle passionnée. Il t'a donné 6 enfants qui vous ont aimé avant de partir vivre de nouveaux jours tout autour de Talaïn. Tu les sais heureux. Aujourd'hui, vous êtes sur une plage, pas n'importe laquelle, celle de Ganymède, votre préférée. Vous regardez les vagues en dégustant des arbettes, ces petits animaux marins qui font la réputation de cette région. Les oiseaux forment comme une ronde, dansante à l'horizon. Taham, tu poses ta main sur l'épaule d'Ophoz. Mon amour, faisons un autre enfant.
Mon amour, faisons un autre enfant.
Lui suggères-tu d'une voix douce. Ton pote d'assistance indique que tes cellules principales ne se régénèrent plus correctement, que ton rythme cardiaque est anormalement élevé et que ton cerveau est à 46% d'efficacité. Mais tu ne vois pas ces informations, car ton pod est rangé à sa place dans le sac d'Ophoz. Ophoz te regarde avec la tendresse dont il a toujours fait preuve depuis votre rencontre. Je vais t'offrir un nouvel enfant dès maintenant, mon amour.
Je vais t'offrir un enfant dès maintenant, mon amour.
Il te tend ta dose journalière de jablon. Tu la bois par petites gorgées en le dévisageant, avec plus d'amour dans les yeux que tous les regards de Talaïn ne pourraient jamais produire. Je
Tam, tu es dans votre maison, une magnifique demeure réservée aux gens très importants. Ophos a dû s'absenter 2 jours pour son travail de l'autre côté de Talaïn. C'est le 2e jour aujourd'hui. Tu t'es habillé d'une parure magnifique pour son retour ce soir. Avant de partir, il t'a laissé 2 doses de jablon. Tu as bu celle d'hier, mais tu n'arrives pas à mettre la main sur la seconde. Cela ne s'est jamais produit en près de 36 000 jours de vie entre Duhumvir. Tu paniques et tu retournes toutes les pièces une à une. « C'est pas possible, Tam !»«
C'est pas possible, Tam !»«
Ressaisis-toi !»«
Ressaisis-toi !»«
Qu'est-ce que j'en ai fait ?»«
Qu'est-ce que j'en ai fait ?»«
Putain, putain, putain,
putain, putain !»«
Rien à faire, tu ne trouves pas le jablon. » Tu soulèves un coussin et aperçois quelque chose d'étrange sur le canapé de votre salon. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Cela ressemble à du sang. Qui a pu laisser ça comme ça ? Tu vas chercher de quoi nettoyer ce sang en courant vers la cuisine. Mais dans la précipitation, tu trébuches sur une sorte de pierre.
Ah ! Ah !
Tu te relèves et découvres avec horreur que ta robe est déchirée. D'ailleurs, ce n'est plus vraiment une robe magnifique, mais plutôt des haillons jaunâtres. Une odeur puante emplit la pièce. Qu'est-ce qui se passe,
qu'est-ce
putain ?
Qu'est-ce qui se passe, putain ?
Tu entres dans ta chambre et t'arrêtes devant le miroir. Ce n'est pas moi.
Ce n'est pas moi.
Ce n'est pas moi, c'est pas possible.
Ce n'est pas moi, c'est pas possible.
Sur le reflet, une femme te regarde. Sur le plan physique, elle te ressemble. Mais son visage. Son visage est tuméfié. Ses habits, ou plutôt ses guenilles, sont déchirés, la laissant à moitié nue et visiblement pleine d'urine. Tu, ou la femme du reflet, tu ne sais plus, prends peur. Tu te retournes. Ta chambre n'est plus là. Enfin, elle est là, mais elle ne ressemble plus à la chambre que tu connais. Non. À la place de votre grand lit, une planche de bois et de lourdes chaînes. À côté de la planche, à la place de ton armoire dont tu es si fier depuis qu'Ophos l'a ramenée il y a quelques milliers de jours, des instruments tous plus tranchants les uns que les autres. Sur les murs, du sang partout. Murs qui, au passage, ne sont plus vraiment des murs, mais de la pierre. La pierre d'une grotte. Une sombre grotte, humide et puante. Tu pleures, toute seule, perdue, terrifiée. Tu ne comprends rien à la situation. Tu as envie de retrouver Ophos, car c'est la seule personne que tu connais, mais étrangement, sans vraiment savoir pourquoi, tu as comme peur de le retrouver. Tu essaies de te souvenir d'une autre personne que tu connais sur Talaïn, d'un autre endroit pour te réfugier, mais tu n'y parviens pas. Et de toute façon, tu ne peux pas sortir comme ça. Tu es une femme respectable et ne peux sortir comme ça. Tu sens l'urine, le sang caillé et la transpiration. Tu as honte, tu es perdu. Tu imagines Ophos en train de te battre, de te torturer, de te baiser alors que tu hurles. Mais c'est impossible, quelle est cette vision ? Non, ce n'est pas possible, c'est ton Duhumvir, ton âme sœur. C'est l'homme le plus doux de Talaïn. Tu es anéanti, tu ne comprends pas ce que tu fais dans cette grotte sombre. Soudain, une main se pose sur ton épaule. Tu te retournes, c'est Ophos, qui a à la fois le regard paniqué de te retrouver ainsi, et la mine sombre, lugubre, démoniaque. Il te fait peur, mais il te tend un verre de jablon. Tu regardes le verre, sans trop savoir quoi faire. Tu as à la fois envie de le boire pour que ce cauchemar se termine, mais tu ne veux pas le boire. Alors que tu détournes la tête, Ophos t'agrippe violemment les cheveux et te tire d'un coup la tête vers l'arrière. Alors qu'il te fait boire de force le jablon, tu hurles. Tam, tu te réveilles dans les draps somptueux de ton grand lit, auprès de celui que tu aimes depuis tant d'années. Il t'embrasse tendrement dans le cou, tu adores quand il te fait ça le matin. Tu ris un peu bêtement, amoureusement, en l'embrassant en retour. En face de votre lit, un grand miroir. Vous êtes magnifique à tes yeux. Enfermé dans une armoire du salon, ton pote d'assistance annonce un cœur en état critique, des cellules en état critique, un cerveau prêt à lâcher, mais toi tu ne le vois pas. Toi, tu souris à ton Duhumvir. Toi, tu es amoureuse, comme personne ne l'a jamais été avant toi sur Talaïn. Et cela te va bien ainsi.
C'est pas vraiment une happy end.
Voilà.
Je viens de me faire
violer.
Bienvenue
dans les garçons.
Ouais, bon, bah celle-là était un peu triste.
Putain, c'est moi qui ai pris cher. Oh là là.
Oui, moi ça va. Moi, je m'en sors plutôt pas mal. Alors, j'ai remarqué quelque chose quand même, Vic, c'est que tu as cette fâcheuse volonté à chaque fois de nous rendre amoureux, Thomas et moi.
Mais c'est pas une volonté, ça s'appelle un fantasme.
C'est vrai, peut-être que...
Ouais, c'est des histoires d'amour et vous êtes que tous deux en face de moi.
Alors est-ce que le jablon...
Enfin, des histoires d'amour, vite fait.
Oui, c'est parce que voilà. Est-ce que le jablon, c'est une sorte de GHB intergalactique?
Quoi, c'est ouais,
ou, enfin, enfin, un truc qui projette une autre réalité aux gens, en tout cas. Quoi.
En fait, à la base, c'était une histoire que j'avais justement dans le petit carnet que je me suis fait voler à Bruxelles, qui était entre deux filles, pour le coup, et qui était... J'aimais bien l'idée. Je me disais que c'était une histoire entre ces deux filles-là, qui vivaient parfaite idylle, amoureux, elles étaient heureuses, etc. Et en fait, au fur et à mesure, une des filles se rendait compte que elle était peut-être pas tant amoureuse qu'elle le croyait de l'autre, et qu'en fait l'autre était lui manipuler l'esprit sans qu'elle, alors qu'elle lui avait fait beaucoup de mal auparavant. Et j'avais pas encore vraiment la manière dont elle le découvrait, mais voilà. Bon, et là, par rapport à Alien et les garçons, j'ai mis ça sur une autre planète, et par rapport surtout au thème marionnette, je me disais que ça devait être... J'ai inséré le jablon, qui est effectivement une boisson qui te fait voir l'autre comme... comme un amour, c'est ouais, parfait, c'est pas vraiment du GHB parce que ça t'endort pas complètement,
c'est pas ça, c'est plus cette transforme ta réalité de sorte que, et ça t'idéalise la personne aussi,
ça
du coup.
Ça t'idéalise, ouais.
On est sur un pervers narcissique. Là.
C'est un produit pour les pervers narcissiques.
C'est ça,
exactement.
Moi je suis abonné à Elle et donc je connais bien.
Psychologie pour Elle,
c'est ça.
Et du coup, c'est quelque chose qui est courant sur la planète.
Bah, je sais pas bien. Peut-être, ou peut-être que c'est un truc qu'il a eu au marché noir, au Fauze.
Autre question, du coup, est-ce que le pod d'assistance était défaillant, ou genre toutes les âmes sœurs sont toujours comme ça là-bas?
Non, je pense pas que toutes les âmes sœurs sont comme ça. Enfin, je sais pas, peut-être que si, mais je pense pas. Mais le pod d'assistance n'est pas défaillant, mais par contre, c'est son pod d'assistance qui fonctionne très bien quand elle est toute seule. Mais après, l'autre, il l'empêche vraiment de le regarder. D'ailleurs, il la prive aussi de ses amis, de sa famille.
Non, je voulais dire quand le pod d'assistance a dit à Taham que son âme sœur était dans la pièce.
Ah non, c'était vraiment... Ouais,
mais
c'était
est-ce
vraiment...
que c'est vraiment... Bah, mauvaise pioche, l'âme sœur.
Mauvaise pioche. Ouais. Tu veux dire, ah oui, il serait gouré sur le...
Ouais. Ah ouais, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il est défaillant, ou est-ce que...
Peut-être qu'il s'est fait hacker par Ophos, qui a dit, oh, celle-là, on va dire que c'est mon âme sœur.
C'est ça. Parce que tu te dis, c'est pas romantique, quoi.
Ouais, non, c'est clair. Bah après, tu peux avoir une âme sœur. C'est difficile, une âme sœur aussi. Bien, c'est pas terrible, quand même.
Non. Après, tu voulais dire un truc?
Non, pas du tout.
Après, finalement, ça finit pas si mal, parce que, à nouveau, la fameuse question, est-ce qu'il vaut mieux pas vivre dans le mensonge?
La pilule rouge, genre, ou pilule bleue.
Elle a la pilule rouge, en l'occurrence, elle retourne dans son lit de princesse, et ça finit bien, elle souffre plus.
Ouais, c'est
ça
sûr.
Ça va, quoi.
C'est sûr.
Sauf qu'elle va mourir dans très peu de temps, quoi.
Ouais, elle est quand même pas top niveau santé, parce que l'autre, il est un peu violent, quoi.
Oui, c'est vrai.
Non, ah oui.
C'est vrai, j'avais oublié ce détail que elle perdait des points de vie tout le temps, la pauvre Tam. Ouais. Ah, c'est dur.
Désolé, Thomas, ça a été toi, au hasard.
Et est-ce que du coup, le pote d'assistance ressemble à une sorte de petit œuf d'autruche avec un écran dessus?
Exactement.
C'est comme ça que t'imaginais.
Un petit œuf d'autruche peint.
D'accord, très bien.
Ah, c'est rigolo. Et le côté âme-sœur, j'aime le concept d'âme-sœur, qui évidemment qui n'existe pas sur Terre, malheureusement. Non. Mais malheureusement, ou tant mieux plutôt, parce que. Bonne chance pour trouver ton âme sœur, sinon parmi les 7 milliards de...
Mais en le couplant avec le thème marionnette, moi je sais pas vous, enfin on va voir dans vos histoires, parce que pour le coup j'étais la première, mais moi je trouve que c'est des histoires tristes, les histoires de marionnettes. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui se fait... Si quelqu'un est la marionnette de quelqu'un, je trouve ça triste pour la personne, l'autre, bon voilà. Enfin même, au final, même Pinocchio, quand tu regardes à Disney, on a fait un truc super marrant, va à la Disney,
ouais,
etc.
Encore,
mais à
encore.
La base, l'histoire, du coup je me suis un peu renseigné pour cet épisode... Et à la base, l'histoire, c'est pas si joyeux que ça.
Ah non, pas du tout. Le film de Disney n'est pas si joyeux que ça non plus.
Non, il n'est pas si joyeux, mais quand même, il y a...
L'histoire de base est encore plus triste.
L'histoire de base, à la base, même Pinocchio, il n'est pas sympa, même lui-même. Quoi.
Ah ouais
Non.
Ouais. Ah ok.
Et bon...
En même temps, c'est comme tous les contes sont affreux en vrai.
Bien sûr.
C'est
mais là,
sanguinaire.
Mais là, en plus de ça, je trouve que le thème marionnette va bien avec quelque chose de... Enfin, je sais pas, ça m'inspirait pas quelque chose d'heureux.
Après, il y a des histoires de marionnettes qui finissent bien. Pokémon, c'est une sorte d'histoire de marionnette au final, tu vois quoi. Et ça se passe plutôt bien, c'est plutôt une belle relation entre le Pokémon
bien sûr,
et le Dancer.
Mais si ça, après quoi. tu te places, hein, si t'es genre le...
Je remets tout à Pokémon.
Ouais, c'est clair, le mec, non, mais tu ramènes toujours tout à Pokémon.
Si t'étais par exemple une association... pour les animaux dans le monde de Pokémon, je pense que tu aurais beaucoup à dire pour la défense des Pokémon.
J'avoue, L214 Bourg-la-Palette.
Pour les Pokémon, pour Pikachu.
C'est Bourg-Palette, c'est pas Bourg-la-Palette par contre.
Ah pardon.
Bourg-la-Palette, c'est un autre film, tu vois.
Autant pour moi, Bourg-Palette.
Non, mais je suis sûr que les Pokémon, comme ça on le voit, mais si tu, franchement, t'envoyais une association là-dedans, à mon avis, tu trouverais des sales trucs de Pokémon.
C'est un peu spécifique.
C'est un peu bleu. En vrai, même quand j'étais petit, déjà, j'y pensais un peu, c'est des combats de coqs.
Mais c'est des combats de coq.
En Thaïlande, c'est, on trouve ça glauque, mais, mais on donne ça à nos enfants, quoi. C'est comme Monster Hunter. Merci. Bah, c'est le Romanetti, ça y est. Retour du Romanetti, retour des n'importe quoi. Monster Hunter, c'est qu'il y a un jeu qui cartonne, il y a un côté bizarre, quoi.
Ah bah, il y a un côté dressage. De toute façon, le mec, c'est un dresseur.
Il y a un côté déglingage, Monster Hunter. Tu vas chercher des bêtes.
Tu vas les faire se battre. Enfin, je sais pas. Effectivement, moi, je pense que c'est pas si gay que ça. Et de deux, c'est triste. Ils ont pas de possibilité de vivre leur vie.
Tu as raison. De un, c'est pas si gay que ça. De deux, c'est triste. Tu as raison.
Même si c'est triste, c'est traité de manière assez joyeuse. Tu vois la relation entre.
Bien sûr.
On est en train de faire une véritable analyse de Pokémon, c'est de la relation clair. Entre Pikachu et Sacha. Mais la relation entre Pikachu et Sacha est plutôt. Plutôt
moi, je pense que Sacha, c'est un. En fait, il le sait peut-être pas lui-même, mais
c'est
il est
une ordure. C'est une ordure.
C'est possible.
Ouais. Et moi, j'aimerais bien qu'un jour, il y ait des Pokémon qui foutent des humains dans des Pokéballs pour se faire se battre entre eux, et là, on en reparle. Ça m'intéresserait de voir ça.
Écoute, il y a des vidéos sur Internet qui parlent de ça.
Non, c'est des hentai, ça compte pas.
Mais c'est intéressant.
Ok, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Vic? Moi, je suis rassasié de questions.
Je pense qu'on a fait le tour. Une fois qu'on a fini sur Pokémon, je pense qu'on a fait le tour. Quoi.
On est bon.
Dès qu'on parle de Pokémon, c'est que c'est la fin de la discussion.
Clairement.
C'est ça.
C'est alors, le point Pokémon.
Exactement, c'est le point.
Le point pour palette.
Le point pour palette. Et non pas pour la palette. Je m'excuse auprès de tous les pokésexuels qui nous écoutent. Je sais qu'ils sont nombreux. Et Florian est le président du club des pokésexuels.
Tout à fait.
Ok, on va enchaîner avec ma chronique à moi.
Allez, c'est parti.
Les abîmes de l'existence.
Dix mille jours plus tôt, j'apparais au monde. Je suis d'abord inconscient de ma propre existence, de l'existence des autres, des objets. Puis je grandis et j'apprends. J'apprends à apprendre. Je commence à identifier ce qui est autour de moi. J'assimile la persistance de l'objet, puis je commence à les définir. Maman, papa. Un jour, j'entre à l'école et je rencontre les autres. Le monde s'éclaire encore un peu plus. Il y a des rires, de la frustration et des tas de nouvelles émotions. Les relations humaines sont complexes. Je découvrirai des années plus tard qu'elles occuperont la plus grande part de ma vie. Les autres sont ma vie. Ma personnalité aussi se complexifie. Je deviens un individu à part entière. Je continue mon chemin. Je continue à découvrir l'univers autour de moi et mon univers intérieur. Des questions commencent à apparaître et elles devront rester pour la plupart sans réponse. Je rencontre de nouvelles formes d'amour, de nouvelles formes de souffrance. Je me lie de plus en plus à d'autres personnes. Un jour, je crois être devenu adulte. Je quitte le domicile familial, je trouve mon premier job, je dois faire face à des responsabilités, des vraies. Mais en fait, cette sensation que j'éprouve devra apparaître de nouvelles fois dans ma vie, des années plus tard. On ne devient pas adulte du jour au lendemain, on le devient progressivement tout au long de sa vie. Et puis il arrive un soir hors du temps, comme une pièce à part dans le grand labyrinthe de la vie. Ce soir-là, j'arrête de marcher pour me retourner et regarder le chemin parcouru. Je vois mes erreurs, je mesure la chance et la malchance que j'ai pu avoir, je repense aux visages que j'ai croisés et qui ont fait de moi la personne que je suis devenue. Certains aux traits vagues et flous, d'autres aux détails précis. Je revois les différents chemins, les bifurcations, les croisements. La route a été longue et pourtant si courte. Je prends une seconde et je réfléchis à comment j'en suis arrivé là. J'essaye vainement de mesurer les causes et les conséquences qui ont fait de mon existence ce qu'elle est précisément au moment où je pense à cela, en cet instant précis. Bien sûr, c'est impossible. Alors un grand sentiment d'impuissance naît en moi. Je réalise que je n'ai aucun contrôle. Je suis comme un pion sur un échiquier, incapable de voir les mains qui mènent le jeu, incapable même de comprendre tes règles. Simple objet d'ivoire que je suis. Je voudrais revenir en arrière, je voudrais pouvoir avancer, faire d'autres choix, avoir plus de choix, je voudrais comprendre, me hisser à un autre état de conscience. Mais en cet instant, je sais combien mon chemin était en fait tracé. Un profond sentiment de désespoir s'empare maintenant de moi. Et alors, plutôt que de me mettre à genoux, je décide de me relever et de faire quelque chose. Je suis conscient de ma propre futilité, dans ce monde déraisonnable, de n'être rien de plus qu'un personnage dans une histoire indéchiffrable et à la merci d'un écrivain dont la substance m'est impossible à comprendre. Je ne peux rien changer à cela, mais je peux faire autre chose. Alors je parle à des amis, je leur parle de mes idées, je leur parle de mon idée, de ce que j'ai ressenti, de ce que je veux faire de ce ressenti, et ils me comprennent. Ils ont déjà vécu cela eux-mêmes. Ce que nous nous disons est universel. Alors nous nous réunissons dans cette pièce, baignée d'une lumière pâle et froide, impuissants et incapables de comprendre l'histoire de nos vies. Nous commençons chacun à tour de rôle, à raconter l'histoire d'un autre, une vie que nous avons inventée du début à la fin. Sur ces vies, nous avons un contrôle total. Nous sommes maîtres de chacun de ces embranchements. Nous comprenons tous ses tenants et ses aboutissants. Le monde que j'invente ne m'est pas étranger. J'en suis l'architecte et le régulateur. Le personnage que j'imagine est complet. Son existence n'a aucun mystère pour moi. Je connais ses peurs et ses rêves, ses amours et ses démons. Alors je le fais avancer à travers la vie. Il connaît des joies, des peines, il fait des rencontres. Parfois il perd espoir. Parfois il tombe amoureux, il croise la mort, et dans son ombre, c'est la vie qu'il aperçoit. Il apprend, il oublie, il change, se transforme, il devient. Il n'est que le passager d'une existence suspendue à ma plume. Mais un soir, l'un de ces soirs hors du temps, dans une sorte de pièce à part dans le labyrinthe de la vie, je lui permets de se retourner sur sa vie passée. Je lui autorise une seconde de lucidité. Il se sait impuissant, il se sait dépassé par ce monde déraisonnable. Alors il réunit des amis dans une pièce baignée d'une lumière pâle et froide, où il commence à lire l'histoire qu'il a écrite, l'histoire d'un personnage qu'il a inventé de toutes pièces et sur laquelle il a un contrôle total. Il retrace ainsi toute la vie de son personnage, de sa naissance jusqu'à sa mort, de son premier souffle jusqu'à son dernier, du premier mot de la grande histoire de son existence jusqu'au tout dernier.
Waouh.
Fin musique et tout.
Non.
Ça aurait été super. Putain, ça aurait été...
Ça sera fait en post-prod.
C'est cool. Il y a une espèce de trip un peu bouddhiste là-dedans. Ah. Je pense que voilà quoi, forcément.
Je vis pourtant pas dans l'est de Paris, mais oui.
Non, mais il y a une espèce de trip bouddhiste là-dedans, dans le sens où on revit quand même, on renaît un petit peu à chaque fois sur la planète. Mais sauf que là, du coup, c'est pas forcément dans un chat ou dans une vache ou ce genre de choses. Mais en fait, tu revis à travers le personnage que tu recrées derrière toi-même pour reprendre le contrôle sur ta vie.
En tout cas, c'est une mise en abîme des existences, quoi. Mm-hmm. C'est un personnage qui pourrait être moi, en plus, ça qui est une triple mise en abîme, qui dit que. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui le dépasse, qu'il ne pourra jamais comprendre. Et rien nous indique que genre, les personnages qu'on imagine nous n'ont pas le même ressenti. Et c'est pour ça que son personnage, il décide qu'il ait le même ressenti que lui.
Oui, bien sûr.
Pour créer une sorte de boucle. Enfin, pas une boucle, mais plutôt un abîme, en fait, sans fond. Et le personnage que le personnage crée peut lui-même penser à ça, etc.
Bien sûr. Ou bien ça peut s'arrêter.
Ou bien ça peut s'arrêter. Ça s'arrête certainement, mais c'est juste intéressant de se dire que nous-mêmes, rien ne nous indique, comme on dit, pour revenir un peu à un truc plus SF et moins mystique, rien nous indique qu'on n'est pas dans une simulation, dans quelque chose. Donc,
un trip à la Matrix.
Il y a quelque chose qui nous dépasse, c'est certain.
Ouais, ouais.
Donc, Vic, t'as l'air.
Non, je réfléchissais. Au début, je pensais, pour être de manière plus terre à terre, que c'était quand même. Il y avait une idée de personnage de livre. Enfin, de livre ou en tout cas d'histoire.
Peut-être, parce que là, ce que j'ai écrit, c'est peut-être le personnage de mon histoire qui peut le décrire. C'est pas forcément moi qui parle, d'ailleurs, c'est pas ce que j'ai pensé faire.
Ouais.
C'est un peu mon personnage qui se rend compte qu'il a été écrit par quelqu'un. À un moment donné, je parle d'un écrivain dont la substance le dépasse. Ça pourrait très bien être moi.
Ça pourrait très bien être Dieu.
Ou Dieu, exactement. Ou même nous, ce qu'on appelle Dieu.
Dieu, c'est peut-être, oui, effectivement, ton écrivain.
Dieu, c'est peut-être juste Guillaume Musso, hein, je sais pour nous. Tu sais pas. Hein.
Si t'étais le produit d'un auteur, tu serais de quel auteur, Thomas ?
Ah bah, ça...
De Guillaume Musso.
Non, mais c'est hyper difficile.
C'est rigolo, non ?
Moi, je pense que je.
Gardons-le pour plus tard, réfléchissons. On en reparlera peut-être plus tard.
Avant de passer à la chronique suivante, chacun donnera sa réponse. Ok, en fait, je vais vous parler rapidement des trois inspirations qui m'ont amené à ça. Il y a. Ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé, Christopher Priest.
Ah oh.
J'en parle à chaque épisode, mais donc c'est un écrivain de SF britannique qu'on ne présente plus parce qu'on en parle tout le temps. Mais voilà, il a écrit un bouquin qui s'appelle La Fontaine Pétrifiante, que je crois Vic a lu. Et ça raconte l'histoire d'un mec qui tout va mal dans sa vie, il se fait larguer par sa copine, il perd son job plus ou moins, je sais plus ce qui lui arrive.
Et son père aussi.
Son père, oui, c'est ça. Et il se retrouve dans une maison, il commence à décrire un monde.
Non, il écrit sur sa vie.
Il écrit sur sa vie, et au fur et à mesure, ça devient un autre monde qui commence à transposer ailleurs. Et finalement, ce monde a plus de réalité pour lui que son monde à lui. C'était une première inspiration. J'en parle aussi souvent, c'est Borges, qui n'est pas un écrivain de SF, mais qui est un écrivain de réalisme magique, donc c'est pas si loin de ça que les SF. Qui a écrit beaucoup de choses sur ça, notamment un poème qui s'appelle « Qu'on ne sait rien » et qui dit que justement on ne sait rien, on n'est rien de plus que quelque chose et qu'est-ce qui nous dépasse. Et c'est un peu la métaphore de l'échiquier, je l'ai emprunté à lui. Et puis il y a aussi un côté...
C'est fou, ça t'invente rien, t'es vraiment...
C'est des inspirations. Et dans le même genre que Borges, il y a Gabriel Garcia Marquez, qui est un auteur de réalisme magique aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle « 100 ans de solitude », dont j'ai peut-être déjà parlé. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non,
j'ai commencé.
Ouais,
j'ai...
Il faut le finir, parce que pour moi, c'est la meilleure fin de toute la littérature. Ce n'est pas le meilleur livre, mais c'est la meilleure fin. Et du coup...
À la fin, c'est sur Terre.
Non, ça c'est la meilleure fin de Florian. Mais c'est ta meilleure fin à toi. Et voilà, c'était un peu.
Et ta seule.
Et en fait, ce que je décris là, c'est, je donne ces trois références là, mais c'est un truc qui revient. Moi, j'ai noté que Camus il appelle ça l'absurde, Sartre il appelle ça la nausée, Borges le décrit donc très bien dans ses poèmes. C'est juste le sentiment de sentir quelque chose qui te dépasse et que tu comprendras jamais vraiment parce que tu t'es juste pas fait pour le comprendre quoi. Donc est-ce que c'est ordonné par Dieu? Est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est autre chose? Un écrivain?
Le thème se prêtait bien, effectivement.
Exactement, on est tous les marionnettes de quelque chose, voilà, c'est tout. Voilà, voilà ce que je voulais vous raconter.
Bravo,
c'était cool.
Ça va?
Ce podcast devient de moins en moins lol. Clairement, quoi.
Bon, en tout cas, chronique sympa, pas très gay, mais sympa quand même. On va voir si Florian, tu redresses un peu la barre.
C'est comme ça qu'on m'a toujours décrit, sympa, mais pas très gay. Dans mes bulletins de troisième, c'était en EPS, sympa, mais pas très gay.
Bon, on m'a toujours décrit comme sympa pour redresser la barre, a priori. J'en sais rien.
Eh ben, redresse-nous la barre.
Je vais pas vraiment redresser la barre. Je suis pas très lol. C'est pas une chronique lol.
C'est pas grave.
Pas de chronique lol, mais tout à l'heure, on se fera des quiz lol à la fin d'épisode. On va bien rigoler.
Exactement.
Allez, restez pour les quiz.
Chronique suivante, à toi de jouer, Florian.
Henri ou la banalité de l'existence.
Bonjour Henri, bienvenue au Second Souffle. Voilà, ça devait arriver un jour. Henri est mort. Ne soyez pas triste, il est mort dans son sommeil, de manière naturelle et extrêmement banale. Après que toutes les cellules de son corps se soient éteintes, faute de ressources et d'énergie pour continuer de subsister. À 84 ans, il ne va pas se plaindre. Certes, il aurait pu vivre plus longtemps s'il avait fait de meilleurs choix dans la vie. Il aurait pu manger plus sain ou faire du sport. Mais 2 ans au-dessus de la moyenne, c'est déjà pas si mal. Il laisse derrière lui une femme et un chat, qui ne connaîtra certainement pas le chagrin d'avoir perdu son maître, car il aura tout de même son bol plein de croquettes et sa gamelle d'eau fraîche tous les soirs. Sa femme non plus ne pleurera pas sa mort très longtemps. Elle verra dans le meilleur ami d'Henri, une épaule certes réconfortante, mais surtout un amant fougueux. La disparition d'Henri de la surface de Cartacy est donc une sorte de non-événement. Non pas parce que personne ne l'aime, mais parce que tout le monde sait sur cette planète qu'il y a quelque chose après la mort. Ne vous attendez pas au paradis, avec raisins à gogo et nouba sans fin, et encore moins un 72 vierge. Ce qu'il y a après la mort sur Cartacy, c'est le second souffle. Un processus qui permet de revivre sa vie depuis le début, en gardant les souvenirs de son passé, avec la possibilité d'en modifier son cours, que ce soit en faisant d'autres choix, en rencontrant d'autres personnes, ou pas d'ailleurs. Libre à chacun de revivre comme il le souhaite, jusqu'à sa mort artificielle. Une façon de dire au revoir à ses proches, par exemple, ou de mourir sans regret. Mais rien de mystique là-dedans. Le second souffle n'est qu'une innovation technologique de plus dans le domaine de la neurologie. Une option que l'on offre à ses défunts, comme on pourrait se payer un intérieur cercueil en velours ou des poignées en or. Et Henri, sans le savoir, a bénéficié du package complet grâce à la mutuelle de son entreprise. Le problème, c'est qu'il n'avait pas vraiment envie de revivre sa vie. Comme sa mort, sa vie a été parfaitement banale. Mais dans tout ce que la banalité a de beau. Une vie presque heureuse, on pourrait dire, si tant est qu'on puisse être heureux. Pas triste en tout cas. Une enfance classique, 3e de sa classe de l'école au lycée, fils de parents toujours ensemble après 58 ans de mariage, même si papa avait trompé maman, et que maman avait fait pareil. Aucune fracture, d'ailleurs aucun sport à risque, ses passions étaient tout aussi banales et chiantes que sa vie. Philatélie, Scrabble et promenade en vélo. Il rencontre sa femme à 20 ans, il est marié à 27 ans, ils essayent ensemble de faire un enfant à 34 ans, mais après plusieurs années d'essai, les médecins détectent une infertilité irrémédiable chez Henri. À 38 ans, il trouve un chat et l'adopte, qu'il prénomme Flocon. Ce n'était peut-être pas la vie rêvée, mais c'était sa vie. Et il l'aimait comme on peut aimer les timbres. S'il fallait la refaire, il referait tout pareil, de peur de chambouler ce qui était son quotidien, ou pire, de tout faire foirer. Mais quand l'opérateur artificiel du second souffle lui indique les procédures de sécurité, avant de reprendre sa vie depuis le début, le doute s'installe. Il n'a peut-être pas envie de revivre sa vie, mais il n'est certainement pas prêt non plus à mourir. Mourir maintenant, à nouveau, décider de se débrancher prématurément, alors qu'il a la possibilité de revoir les gens qu'il aime une dernière fois. Une dernière fois qui dure toute une vie en plus. Refuser, ce serait comme se suicider. Alors il accepte. Henri vient de naître. Il n'a que quelques minutes d'expérience sur cette bonne vieille Cartacy qu'il connaît pourtant si bien. Le choc est rude. L'opérateur l'avait prévenu. Le début, c'est le plus dur. Coincé des années dans un corps insignifiant, impotent, incapable de communiquer de manière verbale en tout cas. Cette période, aussi difficile soit-elle, fut une révélation pour lui. S'il ne peut pas faire grand-chose, Henri observe, Henri écoute, et surtout il comprend. Il observe, papa, vissé sur son téléphone, à envoyer des messages et à parler avec quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais dont il devine l'identité. Il écoute, les allers-retours dans la maison alors que papa est au travail. Et il comprend d'où vient cette cicatrice, et sa peur phobique des sensations fortes, alors qu'il fait un vol plané dans l'escalier, avant de retomber violemment sur le sol et de vomir toutes ses tripes. La libération arrive quand il commence à marcher, et qu'il peut commencer à formuler des émotions à travers des sons. Pas encore des mots, mais c'est déjà ça. Il met en œuvre le plan qu'il s'est construit durant toutes ces années, se rappeler du plus de choses possibles, du moindre détail, de son enfance, de son adolescence et de sa vie d'adulte, afin de refaire exactement les mêmes gestes, les mêmes choix, histoire de s'assurer de revivre la même vie que la précédente. Le plus dur étant de manger un cafard mort, qu'à l'époque il pensait être un biscuit au chocolat, offert généreusement par un copain d'école. Mais Henri a vu trop de films sur le voyage temporel pour savoir que le moindre événement était important et qu'il pouvait modifier à jamais le futur. Jusqu'ici, tout se passait bien. Troisième de sa classe, de l'école au lycée, aucune fracture, aucun accident. Sa seconde vie était encore plus banale que la première. Il se lasse, presque, de faire toujours les mêmes choix, de faire exactement la même chose. Il traverse l'adolescence péniblement, une période qu'il n'aimait que très moyennement. Mais cette fois, c'était pire. Il se sent s'éteindre petit à petit, mais il ne cesse de se répéter que le plus intéressant reste à venir. Henri a désormais 19 ans, bientôt 20. Il organise aujourd'hui sa soirée d'anniversaire, comme elle s'était déjà passée, avec les mêmes CD, deux groupes qu'il déteste désormais, les chips Humble qui traînent dans son placard, l'alcool bas de gamme et une boule à facettes. Et surtout, les mêmes personnes. Après 20 ans d'attente, il se rappelle enfin pourquoi il avait fait tout ça. Pourquoi il avait choisi au dernier moment de revivre sa vie. Pour elle, sa femme qu'il allait enfin rencontrer. Pour ce premier baiser qu'elle allait lui offrir, à la fin d'une soirée où tout le monde serait bourré. Henri vient d'avoir 20 ans. Tous les invités ne sont pas encore là. Des cocktails approximatifs remplissent les verres piqués dans différents bars de la ville. Il n'en boit qu'un, comme dans ses souvenirs. Le goût l'aurait puni à l'époque, mais désormais il pourrait en boire une dizaine, stressé comme il est. Marie et sa cousine ne sont toujours pas arrivées. Il n'attend qu'elle. Cela fait déjà plus de 2 heures qu'elle devrait pointer le bout de leur nez, mais pour le moment, aucun signe de la future femme de sa vie. Il tourne en rond, se perd dans ses pensées. Il réfléchit à ce qui aurait bien pu se passer de différent pour qu'il ne vienne pas. La musique s'était arrêtée déjà depuis quelques minutes, mais il ne s'en était pas encore rendu compte. Lorsqu'un verre éclate au sol, il reprend ses esprits et remarque que les voix résonnent comme dans une pièce vide. Il lève les yeux et comprend pourquoi. Omnubilé par Marie, il n'avait même pas remarqué qu'à peine la moitié des gens qu'il avait invités étaient venus. Ce qui peut passer pour un élément anodin ne l'est pas du tout pour Henri, car la soirée de ses 20 ans était l'élément fondateur de toute sa vie. Il se rappelle de son appartement, bondé de gens, dans les moindres mètres carrés, salle de bain comprise, des rires, de la musique forte, des débats houleux entre le club de philatélie et de Scrabble. C'était l'un des rares moments de sa vie où il se rapprochait du bonheur. Mais au moment présent, c'est loin d'être le cas. Et il sait pourquoi. Henri est devenu chiant. Vous me direz, c'est dur de devenir plus chiant. Mais c'était le cas. En faisant attention de ne pas altérer son futur, il s'était lassé de sa deuxième vie. S'était ennuyé. Et ça l'avait transformé. Il n'était pas la même personne, même s'il avait tout fait pour l'être. La soirée continue. Les rares personnes qui étaient là s'en vont vers 00h30, avec le dernier tramway. Henri ne dort pas de la nuit. Son premier et seul amour n'est pas venu. Il ne connaîtra plus jamais la même vie. Les années passent et ne se ressemblent définitivement pas. Henri a 31 ans et embrasse désormais la vida loca. Alcool, drogue, sexe, tout ce qu'il se refusait, il y succombe et avec excès. Il ne compte plus les soirs où il s'endort dans un bar, ni les matins où il se réveille dans un nouveau lit. Celui d'une femme, blonde, rousse ou brune, ou encore celui d'un hôpital. Les timbres et les lettres en plastique sont loin derrière lui. Lui qui n'avait jamais connu de fracture peut désormais dessiner le résumé de sa nouvelle vie à travers les bleus et les cicatrices. Le souvenir de son passé s'efface peu à peu, comme le souvenir d'un film qu'on mate dans un bus de voyage scolaire. Ce qui devait être un second souffle a remplacé sa vraie vie. Et quelle vie de merde! Les ongles jaunes, les bras percés par les veines affaissées, un visage livide et creusé par les expériences en tout genre, et le regard vide, ses pupilles comme des trous noirs. Il marche sur carte assis comme un zombie, moitié mort, moitié vivant. Il s'attache à ses souvenirs, à ses derniers souvenirs, c'est tout ce qu'il possède. Mais il n'a plus aucun but. Un jour, encore un, il erre dans les rues, comme à son habitude, et s'assoit pour regarder les gens vivre. Son regard se pose sur une femme qu'il croit reconnaître. Mais il n'arrive pas à faire le point sur ce visage qui évoque chez lui un souvenir très flou. La femme est ensuite rejointe par son mari et ses deux enfants, puis ils s'en vont. Mais le souvenir reste. Il s'accroche à ce morceau de mémoire comme à une corde qu'il déroule petit à petit pour retracer l'origine de ce sentiment qu'il ne reconnaît pas. Il commence à marcher, sans savoir où il va, mais comme s'il était envoûté. Il marche des heures et des heures, passe devant le parc où il échangeait des timbres avec ses amis, sans s'en rappeler. Devant le club de Scrabble, sans la moindre réaction. Il sort de la ville, à pied. La nuit est déjà tombée depuis longtemps, mais il continue de marcher. Il a faim et soif, mais s'en fout. Après tout, il est déjà mort, et cette vie est artificielle. Lorsque le soleil se lève, il arrive à un belvédère au sommet d'une colline qui surplombe la ville. Au bord de la falaise, un banc. Cet endroit, il le connaît très bien. Il y venait constamment avec Marie. C'était l'endroit du premier rendez-vous, de sa demande en mariage. C'est aussi l'endroit où ils trouvèrent Flocon, leur chat. Mais tout ça, il ne s'en rappelle pas. Il s'assoit sur le banc, de longues heures, à observer la ville devant lui qui s'anime. Il réfléchit, il essaye de se souvenir, de faire les connexions avec les bribes de mémoire qui lui restent, mais n'y arrive pas. Il est 18h. Henri a 50 ans depuis 14 minutes. Il se lève du banc et saute de la falaise. Ah. La chute dure précisément 2 minutes et 27 secondes, mais pour lui, elle dure une éternité. Et il sourit, car devant ses yeux, Henri voit défiler sa vie, son ancienne vie. Et c'est la fin.
Waouh, je m'attendais pas du tout à ce qu'il se foute en l'air comme ça.
Si, moi je m'attendais à ce qu'il se foute en l'air et je m'attendais à ce que... Ce qui renaît, ce qui vit une troisième fois la vie.
Et finalement, ta chronique est assez proche de la mienne, dans le sens où tu as une mise en abîme de mise en abîme aussi.
Exactement.
C'est intéressant.
Sauf que c'est dans sa propre vie.
Ouais, c'est ça. Et quand, j'aime bien l'idée que, très bonne trouvaille, parce que tu en penses, Vic, mais l'idée qu'il revoit, qu'au moment où il se suicide, au moment où il meurt, il voit sa vie défiler. En fait, il voit sa vie d'avant.
Non, c'est la merde.
Qui précipite.
C'est
la merde. Par contre.
Merci, Vic.
Bonne ambiance, Vic. Par contre, moi je suis un peu déçu parce que. Quand ça commence à partir en couille dans la vie d'Henri,
ouais, je pensais qu'il
allait
dire
justement il allait voilà, il allait vivre la vie d'Aloca jusqu'au bout et se dire ok, ma vie avant c'était de la merde, la philatélie je l'encule et maintenant je vais pouvoir me lancer dans d'autres trucs et en fait
Scrabble, en fait, il vit cocaïne, un peu ça et rock'n'roll.
Voilà.
Sauf que non, c'est à dire qu'il prend la vie d'Aloca mais dans tout ce qu'elle
n'est
pas
bien,
quoi.
Ouais, ce qu'elle a de mauvais. Pauvre Henri, c'est dommage.
Pauvre Henri.
Mais très cool.
Ouais, très cool.
Jean-Henri.
Bien aimé. J'ai vraiment et voilà. C'est une de mes je trouve que c'est une de mes préférées, j'ai vraiment bien aimé. En fait, en sobriété.
J'aime bien l'idée, on a tous voulu ça à un moment de ta vie, en tout cas, on s'est tous posé la question de se dire si je devais revivre ma vie, je ferais ça, ou je ferais pas ça, ou je referais la même chose, etc. Mmh. Et en vrai, je sais pas ce que je ferais. Moi. Je sais pas si je. Si...
Alors, installe-toi, on va en parler.
Est-ce que t'as lu Ken Grimwood, un livre de Ken Grimwood qui s'appelle Ripley ?
Non.
Parce que c'est un peu ça, c'est un mec qui meurt 50-60 ans et qui revit sa vie, en fait. Et sur sa deuxième vie, il devient super riche parce que c'est un peu comme dans Retour vers le futur, quoi. Ouais. Je ne sais plus si c'est avec les résultats sportifs ou autres, mais bref, il arrive où il met des actions sur des boîtes qui sait qui vont fonctionner, etc. Il devient super riche, il vit une vie de dingue, etc. Bon, bref, il arrive à la fin de sa deuxième vie, il remeurt. Mm-hmm. Et effectivement, la troisième fois qu'il revit la vie, il fait en fait. Et il vit une vie plutôt comme la deuxième d'Henri, là, c'est-à-dire. Classique.
Sexe, drogue, alcool.
Non, plutôt classique, plutôt banal. Et en fait, ça, c'est plutôt la deuxième. La deuxième vie, il se fait plaisir. Et enfin, bon, bref, Ripley de Ken Grimwood, c'est un très bon bouquin.
Intéressant.
Et,
en tout cas, oui, pour répondre à ta question, Florian, moi, je me suis demandé, notamment parce que c'était le nouvel an il n'y a pas longtemps, donc on réfléchit à notre vie.
Forcément.
Quoi, mais c'est le coup de la deuxième chance et de se dire, putain, qu'est-ce que j'ai mal fait, comment je referais les choses. C'est certain, moi, je referais tellement les choses différemment.
Bah, à la moi fois, aussi. Pas tant que ça, tu vois. Oui, il y a plein de choses que je ferais certainement différemment.
Ouais.
Mais à la fois. Ça va, je suis content de ce que je suis devenu. Je serais certainement pas devenu ça si j'avais pas eu toutes ces expériences là non plus, quoi.
Oui, il faut avoir des mauvaises expériences, mais il y a certains choix qui peuvent être améliorés, je pense. Mais il
peut-être,
faut les mauvaises expériences. J'ai lu un autre bouquin qui est un bouquin de self-help, ou je sais plus comment on dit en français. Là. Mm-hmm. Je suis désolé d'être ce mec qui parle en anglais. Développement personnel, voilà.
D'accord.
Et qui met un truc bien, pas de la merde, et qui t'explique en effet, c'est les scientifiques qui t'expliquent que les mauvaises expériences font ce que t'es aujourd'hui, qu'on en a besoin. Et si tu n'as pas de mauvaises expériences, t'es trop surprotégé. Arrivé adulte, tu prends tellement cher de ta race.
Ouais.
Évidemment, ça on le sait tous de manière empirique. Et donc, en effet, les mauvaises expériences, il faut les conserver. Je pensais plutôt à d'autres choix, dire ok, là, à ce moment-là, j'aurais dû quitter mon job, j'aurais dû faire autre chose, j'aurais dû machin, tu vois.
Mais à la fois, si tu avais quitté ton job, potentiellement, il n'y aurait peut-être pas eu ce podcast. Pourquoi
c'est vrai.
Pas Ce genre, ce genre d'événement qui aurait pu modifier ton futur aussi directement. Quoi.
En tout cas, sympa le cadeau de départ. Quoi. Enfin, de la mutuelle, là, parce que ça ne lui plaisait pas trop, finalement.
En fait, le truc, c'est qu'il ne le savait même pas. Tu vois. C'est comme nous, je pense qu'avec notre mutuelle, on a des trucs qu'on ne soupçonne même pas. Je pense que...
ça devient administratif.
Non, mais en vrai, tu vois, genre, c'est des trucs, tu ne peux pas savoir que tu les as vraiment jusqu'à ce que tu dois vraiment les utiliser, genre quand tu es mort.
C'est une sorte d'assurance vie de plus. Quoi.
C'est ça.
Moi, je voudrais signaler deux choses. D'abord, la phrase que j'ai adorée, je ne suis pas certain de te citer parfaitement. Mmh. En fait, je te cite, tu vois.
Je sais, tu vas parler de... Et c'est de la vida loca.
Non, alors la vida loca, non, parce que j'aime beaucoup cette expression en plus. Mais c'est plutôt, à un moment donné, tu as dit, je crois, je ne suis pas sûr, il aime sa vie comme il aimait les timbres. Ou un truc comme ça, ou il aime sa vie comme on peut aimer les timbres. Moi, j'adore, ça, hein. J'adore. J'aime beaucoup. C'est tellement triste. C'est vraiment superbe. J'aime beaucoup. Et sinon, ouais, autre remarque... Très décevant, Henri, d'essayer de revivre sa vie de la même manière. Très, très décevant.
Oui, bah, c'est...
Moi, je ferais pas ça du tout. Non, vraiment
bien sûr que
pas, non. Quoi.
Mais je pense que certaines personnes le feraient certainement comme ça.
Des gens chiants, là.
C'est aussi pour montrer, du coup, que
Par contre, complètement artificiel, parce que, du coup, t'es obligé de revivre ta vie en même temps que les autres, exactement, de la même manière. Tu revis pas une vie avec le temps qui a continué, le temps revient en arrière.
Le temps revient en arrière, et surtout, ouais. Le temps revient en arrière dans ta tête, c'est-à-dire que les autres personnes ne peuvent pas modifier non plus leurs choix,
d'accord,
tu vois,
ouais,
et que toi qui peux modifier tes choix.
Ouais.
Ce qui fait que du coup, et même si effectivement ils souhaitent revivre exactement la même vie, quoi que tu fasses, tu ne peux jamais vraiment revivre exactement la même vie, de la même façon, tu vois, c'est impossible.
En fait, quand je fais le bilan, je méprise un peu Henri, parce que
je dirais.
Voilà, le fait qu'il veuille revivre sa vie de la même manière, ensuite finalement,
ouais, c'est un peu chiant,
sa seule manière de exactement, il est très très chiant, sa seule manière de seul espoir, son seul plaisir de revivre sa vie, c'est de rencontrer sa femme. Il attend 20 ans pour prendre du plaisir, enfin, c'est extrêmement triste.
Ah ouais, je te confirme.
Genre, il est vraiment, c'est un pauvre type en fait, c'est vraiment un pauvre type. Ouais. Et du coup, ce qui lui arrive là, c'est quasiment logique, c'est plutôt logique. Et finalement, je pense la vie chiante qu'il a vécue, c'est un peu, il était quasiment au summum de ce qu'il aurait pu vivre.
Je pense, c'était he was living his best life, tu vois, quoi.
Waouh, ah, toi aussi tu parles un peu anglais parfois. Toi aussi, exactement. T'es le genre de mec.
Je suis ce genre de mec.
Drôle.
Et
he was living his best life, ce sera peut-être le nom de l'épisode.
He was living his best life.
Et du coup, effectivement, quoi qu'il arrive, même s'il change de façon de vivre et tout, il est pas du tout fait pour vivre la vida loca, tu vois, quoi.
Non.
C'est que du coup, bah si s'il essaie de vivre la vida loca, il se drogue trop, il boit trop, et puis au final, non, ça marche.
Je pense qu'on peut le dire. Henri est un con.
Henri est un con.
Henri est un con.
Henri est un con.
Oui, comme d'accord. Régis. Comme Régis.
J'aurais pu l'appeler Régis.
J'ai beaucoup de remarques. Je suis désolé.
Vas-y.
Une dernière. C'est absolument affreux. Je me suis, enfin, moi, j'ai pas la même vie qu'Henri du tout, mais chose affreuse, devoir redraguer sa femme, reprendre à zéro.
Grave.
Moi, je m'en rends pas trop compte parce qu'en termes de relation, je suis plus proche des 3 mois de relation que des 20 ans de mariage, mais. Tu sais que tu passes des années avec une femme, qu'elle a construit ta vie, etc. Et tu te dis, ok, là, je vais la rencontrer ce soir-là, il faut pas que je chie.
Ça doit être super dur.
C'est le moment où j'en ai, quoi.
Ça doit être super dur. Tu vois. À un moment donné, parce que du coup, je vais pas vous mentir, j'ai écrit cette chronique, et donc du coup, j'aurais pu choisir d'autres trucs aussi à un moment donné.
T'as écrit cette chronique ?
J'ai écrit cette chronique, ouais. Ce n'est pas un univers.
Rapport
que j'ai
à ma chronique aussi, t'as essayé.
Exactement.
Okay, putain, bravo.
Et du coup, je me suis dit, peut-être que, au final, il est tombé amoureux de la cousine de Marie. Sa femme, tu vois.
Mais pourquoi, vu qu'il a revu la vie de la même manière,
ouais, parce qu'en fait, peut-être que du coup, au final, il n'aurait pas, une fois devant le fait accompli, il se serait dit, peut-être que c'est pas forcément la vie que j'ai envie de vivre, tu vois, quoi. Peut-être qu'au final, après les 20 ans que j'ai passé, au final, tu vois, je me lasse, au final.
Ouais.
C'est pas la vie que j'ai vraiment envie d'avoir, et donc du coup, je vais essayer autre chose.
Moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse ça.
Mais ça doit être quand même super technique, même quand il revit son enfance.
Ça doit pas être facile, surtout enfant.
Non, mais c'est ça, parce que tu connais, tu as tous tes souvenirs d'adulte, etc. Tu revis ta vie d'enfance et tu vois ton père qui, voilà, en l'occurrence, qui trompe sa mère, qui le jette dans un escalier ou je sais pas, de réagir exactement de la même manière. Alors qu'il a été lui-même plus vieux que son père. Clairement. À ce moment-là.
Et moi, ce que j'aimais bien, du coup, c'était de revivre aussi toute cette période dont tu n'as pas le souvenir. Tu vois.
Ouais, tu le revis comme un adulte. Donc, du coup,
avec les souvenirs
coincé dans
et
un corps d'enfant.
Exactement. Putain, et du coup, je trouve ça vachement
dur.
Très hein, intéressant.
Du coup, tu revis. Le plus dur, c'est vraiment le début, c'est quand tu sors de la chatte de ta mère.
Ouais.
Avec ton esprit d'adulte.
J'ai éludé ce passage.
C'est quand même très très dur. T'es là genre, oh non, dégueulasse.
j'ai forcément éludé ce passage-là.
Ouais, bien sûr, mais moi
ça dégoûtait un peu, je voulais pas revivre ce moment-là non plus. Tu vois.
Vraiment dégueu, bravo. Et ben en tout cas, très sympa.
Très bien.
Et est-ce que...
Bah, je pense qu'il est temps de la conclusion maintenant.
Il est temps de conclure.
On a beaucoup de choses à se raconter dans la conclusion, je crois.
On a beaucoup de choses à se raconter.
On va se faire des jeux, on va se faire des quiz, on va se faire des blagues.
On va se faire des quiz peut-être.
Alors, regardez, le Romanetti, il a pris un coup dans la gueule.
Il a pris un sacré coup.
Bien. Allez, petite conclusion.
Virgule.
C'est la conclusion. La conclusion. Florian, à toi.
Bah, conclusion, comme d'habitude, je pense qu'on a l'habitude. je pense qu'on est rodé comme il faut. On a Facebook, il faut liker, il faut partager. On commence à avoir des commentaires. N'hésitez pas à nous partager vos thèmes.
C'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Hein.
Non, on a notre petite communauté quand même et qui nous aime et qui nous apprécie, qui nous envoie des commentaires. Faites de même. Surtout, n'hésitez pas à envoyer des thèmes. Pas qu'on commence à tourner en rond, mais ce serait bien d'avoir des thèmes.
En fait, on va vous dire la vérité, on a plein de thèmes, mais on voudrait avoir encore plus de choix pour pouvoir pas choisir votre thème.
La violence du type, quoi.
Non, mais c'est un peu ça. Non, mais c'est pas ça, mais c'est plutôt. Plus on a de choix, plus
on aimerait être surpris dans les thèmes.
Voilà. Surprenez-nous.
Surprenez-nous.
Faites-nous rêver.
Et comme on a dit en intro, maintenant on a Twitter. Donc je sais pas si vous devez absolument vous abonner, mais en tout cas, on est assez rigolo dessus.
Humblement.
On partage des photos d'Elon Musk, donc c'est pas mal.
Et puis surtout, on partagera les photos des œufs qu'on a eu tout à l'heure.
Ah ouais, grave.
Pour voir les œufs, allez voir Twitter.
Et comme d'habitude, iTunes, 5 étoiles, commentaires, tout ce que vous voulez. On est sur Deezer, on est sur Spotify. Vous pouvez nous écouter sur Rocha, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
On est partout sauf sur SoundCloud.
Sauf sur SoundCloud, c'est vrai. Ouais.
On emmerde SoundCloud.
Ouais. Ouais, c'est pas gentil pour eux. Et maintenant, c'est l'heure de quoi ?
Du quiz.
Ouais.
L'heure de quoi ?
Du quiz.
Ça me dit quelque chose.
Ah non, c'est pas exactement pareil.
Ah ouais. T'as pris la même vidéo que moi.
Bonjour. Bienvenue dans cette 6e édition du quiz d'Alien et les garçons.
6e ?
Avec en invité nos deux compétiteurs du jour. Accueillez chaleureusement Eric à ma gauche. Eric, bonjour.
Qui est Eric ?
Et à ma droite, Zemmour. Ah. Bonjour Zemmour.
C'est moi Zemmour.
Tout à fait. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui des prénoms de marionnettes.
Alors
soyez concentrés car vous jouez aujourd'hui pour avoir la chance de choisir la musique de fin, comme d'habitude, mais aussi...
Il faut absolument que je gagne.
Mais
il faut
aussi
absolument que je gagne.
Un petit Robert illustré, édition 1998.
C'est vrai ou pas ?
Ouais, j'ai failli vous l'emmener en fait, je l'ai pas retrouvé. C'était mon petit Robert que j'avais depuis la 6e et je l'ai pas retrouvé chez moi. Quoi. Je voulais vraiment vous l'offrir.
C'est bien, le petit Robert, c'est vachement mieux que la rousse.
C'est vrai ?
Ouais.
Le mec, il vient de révéler son âge aux auditeurs.
Non, par contre, l'année, j'ai choisi au hasard. Ah ouais. Je ne me rappelle pas exactement l'année qu'il y avait ce petit Robert.
Très bien.
Commençons ce quiz avec la première question. Alors, je suis la création de Kevin Clash. J'apparais pour la première fois en 1972 dans la série télévisée qui a fait mon succès.
Zemmour ?
Oui.
Alf ?
Non. On me connaît à cette époque sous le nom de Baby Monster. J'obtiens finalement mon nom en 1985 et je deviens à partir de ce moment le monstre emblématique à la fourrure rouge et à la voix de fausset de Sesame Street. Par la suite, on crée des poupées.
Cookie Monster.
Non. Par la suite, on crée des poupées à mon effigie qui invitent les plus jeunes à me chatouiller pour me faire rire.
Elmo.
Elmo, oui, tout à fait. Un point pour Zemmour.
Je les ai tous fait.
Je pensais pas un jour pouvoir dire un point pour Zemmour. Je vais pas vous mentir.
Un point pour Zemmour.
Je fume un peu, ça ne me dérange pas.
Non, vas-y, on est entre nous. C'est l'épisode de marionnettes, c'est pour les enfants. Fumez, les jeunes. Vous n'oubliez pas de fumer, droguez-vous aussi. Faites pas comme Henri.
Prochaine question. Vous êtes prêts ?
Allez.
Oui.
Alors, je suis un personnage de fiction créé en 1955. Je suis la marionnette préférée de mon créateur, Jim Henson. Mon premier prototype est créé depuis le manteau vert d'une femme qu'une amie de la mère d'Henson avait jeté à la poubelle.
Zemmour ?
Oui.
Kermit.
Ouais, Kermit.
Oui, tout d'ailleurs, à fait. C'est Zemmour qui a dit en premier son prénom.
J'avais oublié le mien.
Deux points pour Zemmour.
Je t'appelle Eric.
C'est Eric et Zemmour, quoi. Normal. À cette occasion, je ressemble plutôt à un lézard. Ce n'est que quelques années après que je prends ma forme définitive de grenouille.
Ah,
c'est
Zemmour ?
Non, c'est la même personne. je finis justement. J'ai une étoile à mon nom sur le Walk of Fame d'Hollywood. Je suis la première grenouille du monde à obtenir un Oscar.
Ah, c'est vrai ?
Eh oui.
Impressionnant.
Pour la chanson The Rainbow Connection.
C'est-à-dire que Kermit a autant d'Oscars que... DiCaprio.
Par exemple. Exactement.
Intéressant.
Et surtout qu'il a eu un Oscar bien avant DiCaprio.
Oui, c'est mérité. Et ça fume et ça tousse. Hein.
Ah bah oui, bah
bravo. Hein.
Prochaine question. Je suis un personnage créé par Yves Brunier et Christophe Izard. Je fais mes premiers pas à la télévision française en 1974 sur la 3e chaîne de l'ORTF. Mon prénom a été choisi au hasard sur le calendrier. Je suis l'un des rares habitants d'une île que je partage avec un facteur et mon frère notamment.
Zemmour, Casimir.
Oui, tout à fait. 3 points, tu te fais massacrer.
Comme d'hab.
Eric se fait massacrer.
Eric est ivre.
Donc j'y accueille régulièrement des enfants pour les câliner, leur faire à manger et les faire rire. Étrangement, je leur fais vraiment peur. Alors que je suis pourtant un dinosaure bipède de 2 mètres et de 150 kilos. C'est sûrement parce que je suis orange et que j'ai des pupilles totalement dilatées par les nombreuses drogues que je prends.
Quoi ?
Pour tenir le rythme de 3 émissions par jour.
C'est pas neutre du tout ce texte.
C'est pas Wikipédia, non, je te confirme.
D'accord, ouais, d'accord.
Prochaine question. Même si malheureusement, j'ai envie de te dire que c'est Zemmour a gagné. Mais pour la beauté du geste.
Vas-y.
Je suis un personnage créé par Serge Dano en 64. J'habite dans une forêt imaginaire avec un lapin sympathique mais narcoleptique, ainsi que plusieurs autres animaux assez spéciaux. Nous passons le plus clair de notre temps à manger et à faire du manège. Manège qui est protégé par un sorcier monté sur ressort.
Ah, c'est Pollux.
Si, au début, je ressemble plus...
Zemmour, Pollux ?
Tout à fait.
Oh, putain, c'est chépère ton truc.
Oui, mais c'est ça. C'est exact. Et pour le coup, le début de la description, c'est Wikipédia. Pour de vrai. Donc si au début, je ressemble plus à un chanteur de reggae avec des dreads, mes poils retrouvent leur soyeux au fur et à mesure que l'émission gagne en audience. Je suis le lassapso préféré des Français et des Anglais. Je porte le même nom qu'un satellite naturel de Saturne.
T'es quoi ?
Un lassapso. Un Lhasa Apso. Pollux, c'est un Lhasa Apso.
Ah, c'est un chien ?
Oui.
Ah, ok.
Ah, oui, si vous connaissez pas aussi, au bout d'un moment, excusez-moi. Quoi. Et Pollux, c'est effectivement aussi le nom d'un des satellites naturels de Saturne. Parce qu'on en apprend tous les jours dans Alien et les garçons.
Exactement, on en a appris des choses aujourd'hui, n'est-ce pas ?
N'est-ce pas ?
Et comme toute fin d'épisode, on parle plus dans les micros, on fume, on tousse, c'est n'importe quoi. Ça devient un tripot. Au début, c'est un podcast, à la fin, c'est un tripot. Là, je pense qu'on va se faire un poker après, et puis voilà, quoi. On est content ?
Dernière question.
Oh, pardon, tant pour moi.
Et dernière question, tu peux encore marquer un point. Eric, je suis un personnage de fiction britannique créé en 97. Je vis dans un dôme, c'est encore plus perché, je vous reviens. Je vis dans un dôme ultra technologique et futuriste. Il se situe lui-même au milieu de collines couvertes de pelouses et peuplées de lapins, de fleurs parlantes ainsi que de haut-parleurs sortant du sol.
C'est Lala, Zemmour Lala.
Alors, pas exactement, mais effectivement, tu es un télé-tubise.
C'est un télé-tubise.
Je possède un écran de télévision sur le ventre et une antenne sur la tête, mais c'est pas le plus flippant car tous les matins.
Tu connais le nom des Télétubbies ?
Bah en fait, je suis, c'est des cousins par alliance.
Ah ok.
Non mais tu sais, la famille de Florian, c'est des gitans. Ouais. La belle famille, bah c'est des Télétubbies en fait, c'est des gitans.
Ah. Et effectivement, Vic m'a coupé la parole.
On t'a tous un peu coupé la parole.
Non
pardon.
Mais c'est pas grave.
Mais tu sais quoi ? Je vais te dire un truc. Quand tu lis, quand tu racontes les Télétubbies comme ça, on a envie de regarder.
Ouais, mais alors que non, pas du tout. Hein.
Ouais ouais.
Mais j'ai pourtant, un peu regardé parce que du coup j'ai dû mettre ça devant pour occuper mes nièces.
Tu vois, je crois que c'était pour préparer le quiz.
Ah non, pas tout. Ça faut pas déconner. Non, pour occuper mes nièces parce que je suis un magnifique tonton dégueulasse qui met ses nièces devant la télévision, tu vois.
Oui. Et puis devant les Télétubbies.
Devant les Télétubbies, parce qu'à l'époque en même temps il y avait pas de VOD, tu vois, donc tu choisissais ce qu'il y avait à la télé, tu vois quoi.
Ah, c'est vrai.
Et c'était soit le jour du Seigneur, soit les Télétubbies. Donc bon. Et effectivement les Télétubbies, mais c'est vraiment infâme parce que du coup c'est fait pour abrutir les putains d'enfants devant la télé.
Je crois qu'ils rejouent la même scène plusieurs fois. C'est très moi je regardais quand j'étais au collège. Ça passait le matin avant que j'aille au collège. Quand j'avais 13 ans, quoi. Et je me rappelle que je regardais ça. Je me confie un peu à vous.
Je me révèle à vous.
Et c'est une safe space ici, personne ne juge. Et je regardais vraiment parce que c'était tôt, je mettais ça, je sais pas, j'étais fracasse.
Ouais,
et je me rappelle que ça tournait, quoi.
J'avais 13 ans, j'étais fracasse, je regardais
tu fumais des joints, quoi. Bravo.
Comme tout le monde.
Tous les gamins de 13 ans, quoi.
Comme tout le monde à 13 ans. Et après, on s'en sort, on achète des pantoufles et puis on se fait offrir des œufs d'autruche. Et voilà.
C'est ça. Bah, du coup. Pas de surprise, c'est la sixième édition du quiz. Je crois que c'est la sixième victoire. C'est la sixième victoire de Thomas.
Non, pas du tout. Je me rappelle qu'au début, il en a gagné deux, à mon avis. Les deux premières, c'est toi qui as gagné, il me semble.
Je regarderai dans les archives.
On regardera et on en reparlera.
Là, en Télétubbies, tu m'as.
Bah, en même temps, j'ai
scotché. Tu m'as scotché sur Télétubbies et Pollux.
Et du coup, Thomas, quelle est ta chanson de fin d'épisode ?
Écoute-moi bien, Florian. Ma chanson est la suivante. Vous reconnaissez ?
Ah, c'est Christophe.
Oui, c'est fini.
Ah, t'en as parlé en plus.
Oui, évidemment.
Des marionnettes.
Deux. Chanson particulière parce qu'il finit chaque phrase en F en deux, comme ça. On vous laisse analyser cette chanson. On vous dit dans deux semaines, on va essayer d'arrêter de tomber malade. On va essayer de s'améliorer dans la vie globalement et de mettre des pantoufles.
Et de tenir nos résolutions.
Exactement. Et big bisous à tout le monde.
Et big bisous.
Ciao, ciao.
Papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire pour demain.